Et alors d'abord, je voulais faire un petit remerciement personnalisé pour Didier, parce que franchement, c'est un soutien absolument indéfectible de la création d'entreprise, du mariage de la recherche fondamentale et des entreprises. Et franchement, merci, hein, parce que ça fait du bien de se sentir épaulé. On a eu des discussions animées, surtout. En plus, oui, à Tel Aviv, ouais. Voilà. Alors, je vais vous raconter. Je vais commencer. Je vais faire un peu en deux temps. D'abord, moi, c'est ma deuxième création d'entreprise. Je suis ancien chercheur au CNRS. J'étais prof à l'ENS Lyon. Et puis ensuite, j'ai créé une première entreprise Varioptique il y a une quinzaine d'années, dans les années 2002. Alors, j'ai des tas d'anecdotes aussi que j'aimerais vous raconter, mais je suis pas sûr que j'aurai le temps de tout faire. Et puis, depuis un an et demi, je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui est l'Aclaré. Et je vais commencer par vous raconter celle-là avant de passer un petit peu à, ces deux entreprises. Est-ce qu'elles se ressemblent? Comment elles sont un petit peu différentes et similaires? Alors, l'Aclaré, qu'est-ce que c'est? À qui on s'adresse? On s'adresse à ces gens-là. Gens qui sont ce qu'on appelle presbytes, c'est-à-dire les gens qui commencent à, disons, avoir du mal à lire à partir de 45, 50, 55 ans. C'est pratiquement tout le monde, hein, presque tout le monde est presbyte à un certain moment de son existence. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, quand vous êtes presbyte, vous allez chez votre opticien et il vous prescrit ce qu'on appelle des verres progressifs. Les verres progressifs, c'est en haut de la lunette, vous voyez bien de loin, en bas, vous voyez bien de près. Et puis entre les deux, ça bazouille un peu, c'est pas terrible. Et on a fait une étude statistique sur à peu près 600 personnes, et on s'est aperçu qu'environ 5% des gens sont allergiques, enfin n'arrivent pas à s'habituer avec les verres progressifs, pardon, et ils n'en portent pas malgré un réessai, malgré le fait qu'ils ont vraiment essayé. Donc voilà, alors juste pour donner un petit peu des chiffres de marché, c'est quand même des très gros marchés. Le marché des paires de lunettes au niveau, c'est pas tout à fait mondial, j'ai pris le marché dans les pays, développés, Europe, Japon, États-Unis, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Et là-dessus, il y a à peu près 50% qui est lié à la presbytie, hein, c'est-à-dire les gens qui ont des lunettes à partir de 45-50 ans. Le reste, c'est les problèmes de vue des personnes qui sont plus jeunes, astigmatisme, myopie ou hypermétropie. Donc la moitié, c'est la presbytie. Et puis nous, on vise en fait justement d'adresser ces 5%, là, la niche là-dedans, c'est les gens qui justement sont allergiques aux verres progressifs. Et alors ça fait quand même, c'est un petit rond, c'est un petit rond bleu qui est en bas à gauche, c'est quand même un petit rond entre 1 et 2 milliards d'euros, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est évidemment, comme la presbytie touche toute la population et que c'est une tranche d'âge assez large, on va dire 45 à 70 ans, c'est quand même important. Alors, nous, ce qu'on propose comme solution... Alors, dans mes slides, j'ai essayé de mettre une petite étoile rouge à chaque fois. J'ai travaillé, hein. Alors, ça, à chaque fois, c'est parce que j'ai un petit truc à dire en rapport avec ta leçon inaugurale que j'avais beaucoup aimé sur, justement, la relation entre labo, etc. Bon, bref. Alors, il ne faudra pas que j'oublie. Alors, qu'est-ce qu'on veut leur proposer? On leur propose, c'est une idée très très simple, c'est une paire de lunettes dans laquelle ils ont le cristallin qui ne marche plus très bien pour accommoder. On va leur mettre la partie accommodatrice dans le verre de lunettes, c'est-à-dire que c'est un verre actif, un verre qui a la possibilité de changer la puissance optique en temps réel. Alors, on aura un capteur de distance qui sera devant la paire de lunettes ou ici sur la branche, hein, caché bien sûr, hein, il sera complètement discret. C'est un capteur de distance, c'est un LIDAR. Un LIDAR, c'est la même technologie que Google utilise aujourd'hui pour ses voitures automatiques. C'est en fait un faisceau infrarouge qui envoie des pulses de lumière et qui mesure le temps de retour de la lumière et qui en déduit comme ça, ça permet de sentir l'environnement et de déduire la distance de l'objet qui est devant vous. Alors, pourquoi je mets une petite étoile? Parce que tu l'as très bien décrit dans ta leçon inaugurale. Ça, on bénéficie d'un composant qui a été développé pour une application complètement différente. Et ce composant, il existe. Alors, je ne peux pas vous dire le fabricant parce que c'est secret. Mais ça a été développé pour la téléphonie mobile. Ça coûte 2 balles. C'est fabriqué en millions d'exemplaires et c'est génial. Et donc, Vous verrez plus tard, mais dans les business plans initiaux de l'entreprise, j'avais prévu à peu près 1 million d'euros pour développer ce composant. La chance, c'est qu'effectivement, on va gagner 1 an et 1 million d'euros, du fait que on arrive à grappiller comme ça des développements technologiques qui ont été faits ailleurs. Et ça, c'est vraiment important. Une autre chose, c'est que organisation, on va la rentrer dans une paire de lunettes. Alors, j'ai pas décrit la technologie. La technologie, elle va être assez simple. En fait, à l'intérieur du verre de la paire de lunettes, on loge en fait une membrane ultra fine et des liquides. Il y aura 2 liquides. Et en fait, c'est la déformation de cette membrane avec les liquides qui va permettre d'avoir un effet optique. Dans la déformation, en fait, elle sera faite par une pompe microfluidique qui sera logée dans la branche, qui est assez miniaturisée pour ça, et qui va donc du coup pousser le liquide plus ou moins et avoir l'effet optique. Alors pareil, dans les utilisations collatérales, on va massivement utiliser l'impression 3D. Je ne suis pas sûr que ce projet-là était faisable sans l'impression 3D. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa et qui renforce un peu ce que tu disais. L'environnement, c'est clé. Aujourd'hui, si on n'avait pas du scotch qui colle bien, des colles rapides, tout un tas de choses qui ont été développées pour d'autres applications et qui sont devenues des commodités, on ne pourrait pas faire ça. Alors l'équipe, c'est central. Hein. Il doit y avoir une petite croix rouge aussi. Oui, il y a une petite croix rouge. Donc on est 4 aujourd'hui dans l'entreprise. Elle est toute petite. Encore une fois, elle a un an d'âge. Alors je vais être très impoli, je vais commencer par me présenter, mais donc moi je suis donc physicien et entrepreneur, hein, et donc j'ai fait ma carrière au CNRS, puis un passage à l'université de Chicago, à l'école normale supérieure de Lyon. J'ai beaucoup travaillé dans les liquides, les problèmes d'interface et de capillarité, et puis donc j'ai monté Varioptic. Alors j'en parlerai un petit peu après. Varioptic, donc c'est une entreprise qui fait des toutes petites lentilles, aussi des lentilles variables électroniquement, mais c'est une technologie différente. Alors avec moi, il y a 3 personnes qui m'ont rejoint. Jessica Jarose, elle, c'est une personne qui a fait une thèse en optique et qui a déjà travaillé dans plusieurs entreprises ou des instituts, l'Institut de la Vision, qui n'est pas trop loin d'ici, Presbysy, Varioptic, Onera, toujours dans des environnements qui sont liés à l'optique ophtalmique. Hein, donc pour nous, c'est un apport tout à fait essentiel, en particulier sur tout ce qui est instrumentation. Quentin Lavigne, un jeune ingénieur, passionné de nouvelles technologies. Lui, c'est plutôt le côté hardware, analyse d'images, des choses comme ça. Et puis récemment, un jeune ingénieur, Norbert Moliex, enfin qui n'est pas tout à fait encore ingénieur, mais qu'on espère bien garder avec nous, qui a pour spécialité les matériaux. Alors le petit coin rouge, la petite étoile rouge pour faire, rappel de ce que tu disais, je crois que vraiment ce qui est fondamental, c'est la biodiversité. C'est absolument important de diversifier les recrutements et d'avoir des équipes qui vont pouvoir adresser plusieurs thématiques, et aussi bien dans Varioptic, ma première entreprise, que dans la Claret, celle-ci, c'est vraiment clé. Alors les innovations, on a aujourd'hui 2 brevets qui ont été pris l'année dernière. Un brevet sur la structure optique du verre. Alors, en fait, c'est une espèce de structure en doublet. C'est assez courant, les doublets en optique. Bon, là, c'est un petit peu spécial, mais c'est un doublet assez fin. Hein, et encore une fois, l'idée clé de la Claret, c'est de faire une paire de lunettes qui ressemble à ça, c'est-à-dire à n'importe quelle autre paire de lunettes. On veut absolument que la technologie soit complètement discrète. Ça fait partie du cahier des charges de la technologie. Et c'est pour ça que j'ai choisi et que j'ai inventé cette technologie. C'est pour que ce soit discret. Donc ça, je l'ai grossi évidemment pour les besoins de l'image, mais c'est intégré dans le verre, dans l'épaisseur du verre. Le verre ne sera pas plus épais, enfin à peine plus épais, disons moins d'1 millimètre de plus d'épaisseur qu'un verre ordinaire. Donc ça, c'est le premier patin. Le deuxième brevet, c'est un brevet sur justement la pompe microfluidique qu'on aura dans la branche. Alors j'expliquerai pourquoi il y a un brevet là-dessus, c'est pas tout à fait évident. Et puis on a un troisième brevet en gestation avec un laboratoire partenaire qui est un laboratoire excellent, qui s'appelle l'INL, Institut des Nanotechnologies de Lyon, qui est un laboratoire contrairement à son nom, qui est surtout très fort en microtechnologie, mais ça nous intéresse beaucoup. Alors, par exemple, on a eu besoin de faire une micro-grille, une électrode en micro-grille, qui nous ont faite avec de l'attaque anisotrope du silicium. C'était tout à fait extraordinaire. Et voilà, donc il y a un troisième brevet en gestation là-dessus. Pourquoi j'ai mis une petite... Ah oui, alors pareil, une petite étoile pour Didier, là, pareil, hein. Ça c'est un composant, en fait, la technologie repose, je ne peux pas vous dire comment ça marche, parce que les brevets ne sont pas encore publiés, mais en gros, c'est quand même une technologie électrostatique. Et toutes les technologies électrostatiques, avec des MEMS, des choses comme ça, plus ou moins, les tensions de commande sont entre 50 et 150 volts, on va dire. Donc il faut quand même générer une tension relativement élevée. Et là, pareil, Banco, on a un petit chip qui fait ça. C'est un petit circuit de 3 mm par 3 mm qui, avec une tension batterie, vous génère du 200 volts alternatif, exactement comme on veut, avec les bonnes fréquences et tout. Et ça, c'est quand même... c'est pareil, c'est cadeau, c'est génial, parce que sinon, il aurait fallu développer tout ça, et c'est quand même compliqué. On est au début de l'entreprise, et donc... j'ai peut-être appuyé une fois de trop. Enfin, voilà. Donc, alors, la première chose... Je vais revenir à ça après. Excusez-moi, mon PC rame un peu. Là, on a la moitié de la diapo, mais enfin la vidéo qui va. Voilà. Alors donc, la première chose, c'était de montrer le concept. C'est vraiment important. Alors même pour moi, j'étais convaincu que le truc allait marcher. J'avais testé bout par bout, mais il y a un moment où il faut quand même mettre tout ensemble et vérifier que ça marche. Alors là, on a mis tout ensemble, on a mis une pompe microfluidique, on a mis un verre, alors on ne voyait pas très bien, mais là, il est rectangulaire. Évidemment, dans la vraie application, il ne sera pas rectangulaire, il aura la forme de la monture de la lunette. Et au centre de ce verre, il y a une partie ronde, vous la voyez ici, vous la voyez varier, hein, et on voit la variation de puissance. Ici, c'est à peu près 3 dioptries, j'y reviendrai un petit peu après, c'est assez important. Donc ça, c'était décembre 2016. Alors j'insiste sur les dates, parce que c'est la diapo d'après. Ce que je disais avec un des intervenants ce matin, là, c'est moi j'attache énormément d'importance à l'opérationnel. Hein. La stratégie, je ne sais plus, il y en a une de vous qui l'a dit, si on se trompe, ouais, on peut se tromper. De toute façon, on y reviendra tous les jours, toutes les semaines. Donc dans le cours de la start-up, ça va être quelque chose qu'on va discuter. Donc c'est important de réfléchir à la stratégie, mais l'opérationnel, c'est absolument clé. Hein. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un plan qui soit bien établi et de passer les milestones en temps, en heure. Donc là, on s'était mis 2 milestones pour cette année. En décembre, le démonstrateur que je vous ai montré, qui est un démonstrateur à un œil, hein, en gros, c'est juste la technologie. Et un deuxième démonstrateur, on vient de le réaliser, c'était la semaine dernière. Hein, alors je suis très content parce qu'on l'a, pareil, on l'a réussi à le faire en temps, en heure. Et là, c'est une maquette complète, hein, vous le voyez peut-être bien. Bon, c'est une espèce de grosse paire de lunettes énorme. C'est plein de fils partout, on s'en fiche, ce n'était pas le but, mais ça marche. On peut le tester. Et moi qui suis presbyte, je peux vous dire, je l'ai essayé, c'est génial. C'est franchement génial. Donc voilà. Et alors, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important, en temps en heure, ça sécurise tout le plan. Quand l'opérationnel suit, vous vous sentez mieux en tant que dirigeant, les salariés sont bien mieux. L'environnement, ben, il voit que vous faites votre plan en temps en heure. On est sous-staffé, hein, on n'a pas assez de monde, on n'a pas encore assez de fric, évidemment. Mais on tient quand même le calendrier. Ça, c'est vraiment important. Et c'est la difficulté, parce qu'évidemment, on est toujours un peu plus ou moins sous-dimensionné. Hein. Je pense que vous ne me contredirez pas. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est notre roadmap. Et notre roadmap, en fait, elle part des patentes l'année dernière. Et notre but, c'est d'avoir un premier prototype, mais qui ressemble à ça, hein, qui ressemble à une vraie paire de lunettes, fin 2018. Voilà. Alors, on a un certain nombre de ce qu'on appelle d'actifs. Hein. Alors, un des actifs, eh ben, c'est qu'on a une architecture électronique qui est déjà donnée. Alors, cette architecture, elle comprend tout le reste de la technologie, à part la partie optique. Il y a ce qu'on appelle des engins, en anglais, engine, c'est-à-dire la partie, justement, pompe plus verre. Et puis tout ça est piloté par une partie électronique. Alors, la paire de lunettes sera rechargée, hein, elle sera rechargée la nuit. Heureusement, on n'utilise pas la paire de lunettes la nuit. Donc, l'idée, c'est de la recharger en la posant sur une plaque par induction. Et tout ça repose sur des composants électroniques existants. Donc ça, c'est bien parce que ça nous sécurise beaucoup. On sait qu'on n'est pas dans le rêve en se disant « Oui, ça va, on va trouver une solution. » Non, on l'a. La solution, on l'a. Alors, le plan de développement de l'entreprise, on l'a fait sur un certain nombre d'années pour justement voir un petit peu le développement complet de l'entreprise. Il y a une première phase de ce qu'on appelle de bêta prototype, hein, donc en gros qui doit arriver à prototype bêta, pardon, qui doit arriver fin 2018 à la paire de lunettes. Alors ça, ça a deux intérêts. D'abord, montrer que c'est possible. Ça, c'est vraiment important pour le marché, pour l'industrie, pour leur montrer que oui, c'est possible. Parce que les slides, c'est bien, mais ça ne marche pas aussi bien que de montrer oui, voilà, on a fait un prototype qui marche. Et puis les gens peuvent l'essayer. Alors c'est un deuxième intérêt, c'est qu'une fois qu'on a le prototype, on peut faire... Alors nous, on n'a pas une étude clinique, comme vous, mais on a quand même besoin de montrer à quel point notre produit est meilleur pour les gens qui le portent, hein, et quel confort il amène, quelle sécurisation, quelle... Voilà. Et ça, c'est important, d'une part pour les agences de remboursement, hein, c'est-à-dire qu'il faut justifier qu'on apporte un plus pour que les mutuelles, la sécu, etc. acceptent de rembourser. Et puis c'est quand même, bon, c'est quand même un produit qui va être prescrit par l'ophtalmo. Hein, donc il faut que l'ophtalmo, lui, il sente que, bah oui, il y a un bénéfice. Quoi, hein. Si c'est juste pour faire du commerce, ça va moins l'intéresser. Hein. Voilà, après, on aura une partie, disons, industrialisation, en parallèle de cette étude légale. Et puis, donc, après, le lancement sur le marché à partir de 2020. Alors là, l'idée, c'est d'aller avec deux outils de commercialisation. Il y a des pays où on va attaquer le truc en direct, c'est-à-dire que nos clients, ce sera les opticiens, directement, et des pays où on va s'allier à des grandes structures de détaillants optiques, hein, Léa Fleloup et compagnie, et dans lequel on va nouer des accords pour accélérer le développement commercial. Hein, parce que on vend un produit... Alors, ce n'est pas tout à fait du B2C, ce qu'on appelle du B2C, mais presque. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin quand même de vendre au client final. Hein. Alors, pas tout à fait, parce que c'est quand même l'opticien, mais ce n'est pas loin. Voilà, juste pour vous donner un petit peu une idée un peu de l'environnement. Alors, déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la presbytie, en fait, il y a plusieurs façons de la corriger. Mais quand même, dans la très grande majorité des cas, c'est quand même les paires de lunettes que les gens choisissent. Il y a quelques gens qui adoptent les lentilles de contact, quelques-uns la chirurgie, mais c'est assez minoritaire. Et ces pourcentages-là, contrairement à ce que les gens, enfin ce qu'on pourrait penser intuitivement, n'évoluent pas tellement dans le temps. Alors la chirurgie, ben, elle fait des progrès, c'est sûr, mais la chirurgie de la presbytie, c'est quand même toujours un compromis parce que on ne vous rend pas la plasticité du cristallin par la chirurgie, c'est qu'on peut faire des ruses, à mettre des multifocales et tout ça, mais enfin c'est quand même, on dégrade quand même une partie de la vision pour en retrouver une autre, quoi. Et c'est irréversible. Les lentilles de contact, bon, ben il y a à peu près 10% du marché qui est là-dessus, mais pas plus. Alors ça, c'est tout un tas de technologies, et nous on est dans la dernière, hein, ce qui est un peu les technologies qui sont en devenir, qui sont les technologies actives. Beaucoup de choses existent passivement, en particulier les verres progressifs. Et alors dans la catégorie active, ben, on n'est pas les seuls. Il y a des lunettes électroniques, mais il y a aussi des projets d'implants intraoculaires électroniques et de lentilles de contact électroniques. Bon. Ça, c'est des projets qui sont assez futuristes, hein, parce que les barrières légales sont énormes. Hein, même une lentille de contact, ça a l'air de rien, mais si elle ne laisse pas passer assez bien l'oxygène, vous pouvez perdre l'œil. Hein, donc c'est quand même assez sévère. Donc ça, c'est des projets qui vont sans doute déboucher, disons, pas avant 15-20 ans. Hein, donc nous, l'idée, c'est on ne veut pas attendre ça, on veut mettre sur le marché quelque chose qui est plus rapide que ça. Alors, on a des compétiteurs, heureusement et malheureusement. Donc, alors, il y en a plein, je ne vais pas tout commenter, hein, mais enfin, en gros, il y a eu une entreprise qu'on ne peut pas ne pas citer, qui était Pixel Optique, qui était très connue. C'est une très grosse start-up américaine. Ils ont levé, je ne sais pas, au moins 100 millions de dollars. C'était l'armée mexicaine, quoi, hein, il y avait 8 VP, enfin bon, toute une armée. Bon, finalement, ça s'est arrêté pour une raison simple, c'est un mauvais choix technologique. Hein. C'était parti sur un choix de lentilles à cristaux liquides. Les cristaux liquides, ça fait des variations de phase optique assez faibles. Hein, et du coup, ils avaient beaucoup de mal à avoir de l'amplitude dioptrique pour que la paire de lunettes, elle varie suffisamment pour que quand on lit, on soit confortable. Hein. En gros, ils avaient 0,7 dioptrie. Alors, cette activité, elle n'est pas complètement morte. Elle a été rachetée par une entreprise japonaise que j'ai visitée. J'ai discuté avec les gens qui développent ça. Donc, ils continuent. Mais pour l'instant, ça ne donne pas lieu à une activité commerciale. Bon, il y a un certain nombre de développements, là, AdLens par exemple qui a rentré sur le marché quelque chose de manuel et qui a une esthétique, disons, on va dire un petit peu limitée parce qu'il y a deux verres de lunettes l'un devant l'autre, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a une start-up israélienne là, qui aussi se relance dans les cristaux liquides. Bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Eux, ils ont une technologie plutôt de lentilles diffractives. Et puis il y a Sharp Eyes qui vient d'arriver. Là, ça c'est il y a quelques semaines. Là, une entreprise qui vient de se créer aux États-Unis. Alors eux, on les aime bien parce que bon, bah justement, c'est un petit peu tout ce qu'on veut pas faire. Nous, on veut pas. Ici, c'est une technologie avec un gros anneau autour de la paire de lunettes pour faire une variation. Alors certes, ils ont les trois dioptries, mais évidemment, l'esthétique est bon, on va dire pour le moins discutable. Voilà. Alors j'aime bien présenter ce tableau parce que c'est un tableau qui est, pour une start-up, il y a toujours un tableau de compétition et à la fin, on montre tous les défauts des concurrents et puis évidemment, nous, il n'y a aucun défaut. Mais la différence dans notre cas, c'est que nous, c'est vrai. C'est vrai. Et je rigole pas en le disant. Pourquoi tu ris ? Franchement. Non, mais franchement. C'est bon, bref. Voilà. Enfin, non, mais franchement, voilà, ça a l'air d'une boutade, mais on a besoin, nous aussi, d'être convaincus. Hein. Il faut toujours le comprendre. Il n'y a pas d'aventure entrepreneuriale viable si on n'aime pas ses clients et si on n'est pas convaincu de son produit. Hein. Aimer son client, c'est-à-dire si on dit oh, les clients, ils font chier, bon, bref. Non, il faut être attiré par le produit. Hein. Moi, je pense que. Alors c'est une petite digression, je ne sais pas si j'ai le temps de la faire, mais je vais la faire quand même, tant pis. Beaucoup d'investisseurs ou de gens un peu qui gravitent autour de la création d'entreprise vous disent « Ah oui, le critère numéro un, c'est l'équipe. Ah, l'équipe, il faut être bon. » On ne sait pas très bien d'ailleurs quels sont les critères de qualité de l'équipe, mais voilà, ça fait bien de dire « c'est l'équipe. Bon. » Moi, je suis persuadé que ce n'est pas ça. C'est modestement, chez nous, la star, c'est le produit. Hein. Nous, on est passionnés par le produit, la paire de lunettes. C'est ça qui nous passionne et qu'on veut développer. Bon. Bref. Alors, le business model, ça, c'est très important. J'ai pas beaucoup le temps mais voilà, nous, notre business model, c'est le gars qui est là. Voilà. Alors, donc, c'est simple, comme business model, le gars, il rentre chez l'opticien, il achète une paire de lunettes et il repart. Bon, alors ça, c'est un peu une boutade, mais le vrai business model, il est ici. Alors, ça, dans les startups, c'est aussi un problème compliqué. On en a déjà parlé avec les autres intervenants, là. Qu'est-ce qu'on vend ? Eh ben, c'est pas facile. Surtout quand le truc est encore en développement. Est-ce qu'on vend une licence ? Est-ce qu'on vend un produit ? Est-ce qu'on vend l'autorisation ? Et le gars qui achète en face de vous, est-ce qu'il achète vraiment ce que vous lui vendez ? Ce que vous pensez que lui vendez ? Ben, ça paraît bête, hein, mais honnêtement, c'est pas facile du tout d'y répondre. Bon, nous, on navigue un peu dans un environnement où il y a des grosses baleines, hein, vous voyez, Essilor, Zeiss, Hoya, Lusotica. Donc ça, c'est les fabricants de verres, ça, c'est les fabricants de montures. Il y a des sous-contractants électroniques aussi à mettre en musique là-dedans. Donc voilà. Donc le but de la Claret, c'est de mettre tout ça en musique pour qu'à la fin, alors on va acheter, nous, des bouts de verre, hein, enfin des verres à ces gens-là. On va pas. Alors, encore une fois, hein, l'idée, c'est pas de révolutionner. Comment on fait un verre optique, hein, ça, Essilor le fait très très bien, et on veut au contraire récupérer toute la R&D qu'ils font depuis 40 ans sur les dépôts anti-rayures, anti-reflets, anti-buée, etc. Donc nous, on va acheter des bouts d'optique, on va mettre notre technologie dedans, et on revend ça comme une paire de lunettes à des opticiens. Voilà, alors, juste un petit peu plus sur la technologie. Alors là, j'ai mis une petite croix rouge, mais je ne sais plus pourquoi. Ah oui. Oui, alors voilà. Alors, ça, j'y reviendrai peut-être après, mais ça, c'est la technologie de la Claret. Donc, je vous ai dit, dans le verre de lunettes, on met une membrane de liquide. Finalement, ça paraît bête, quoi. Ça paraît pas très innovant. Bon. Alors, c'est plus une innovation d'association de briques y a une technologie quand même qui est assez innovante, mais c'est vrai que c'est plus de l'innovation d'association de briques. Alors, ça, c'est un vieux débat. Il y a des gens qui vous disent dans l'innovation, ben aujourd'hui il y a tellement d'inventions qui existent sur le marché que rien qu'à les mettre ensemble, vous pouvez faire un siècle d'innovation, il n'y a plus besoin de faire de la recherche fondamentale. Puis il y en a d'autres qui vous disent l'inverse, qui vous disent, ben non, c'est la recherche fondamentale quand même qui va amener des nouvelles briques. Et je pense que, bon, il y a du vrai dans les deux. Hein. Moi, mes deux créations d'entreprise, la Claré, c'est plutôt association de technologie. L'ancienne, c'était plutôt création d'une nouvelle technologie. Voilà, alors je ne vais peut-être pas vous saouler avec de la technique, mais en gros, si, je sais pourquoi j'ai mis la croix rouge là. Là, il y a une petite croix rouge. C'est parce que, la Claré va s'appuyer quand même sur notre connaissance des liquides optiques. Et cette connaissance, elle a été accumulée en grande partie par l'expérience de Varioptique, donc les 15 dernières années que j'ai passées à Varioptique. Ça, c'est la carte des verres. Alors, c'est la carte de Schott. Mais j'ai quand même pensé à Saint-Gobain quand j'ai pensé à ça, donc c'est pour ça qu'il y a la petite croix rouge. Mais vous voyez que donc, les verts, ça c'est en gros la carte en optique, c'est-à-dire l'indice de réfraction en vertical. L'indice de réfraction, c'est un peu le pouvoir réfractif du vert. Et puis ici, c'est l'aberration chromatique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça vous donne tous les verts possibles qu'on utilise dans l'industrie pour faire des objectifs de microscope, pour faire de l'optique en général. Et puis ça, c'est tous les liquides transparents qu'on connaît, qui permettent aussi de jouer avec. Donc vous voyez que c'est quand même d'une complexité à peu près comparable à celle des verres. On a un peu moins d'extension. Hein. Les verres, ceux-là, ils sont très précieux parce qu'ils permettent de faire des corrections achromatiques. On ne les a pas pour les liquides, mais on a quand même toute une gamme. Alors en particulier une gamme d'indices. Hein. On peut monter dans les indices jusqu'à 1,65, 1,67. Alors vous savez que les opticiens, les gens qui fabriquent des lunettes, ils aiment toujours aller vers de plus hauts indices. Hein. Vous avez peut-être vu ça chez votre opticien, ceux qui sont porteurs de lunettes. Parce que plus l'indice est grand, plus le verre de lunette est mince. Hein, donc c'est toujours une tendance. Alors là, les liquides, on va être bornés. Hein, on va être bornés à 1,65, 1,67. Bornés parce qu'au-delà, il y a des liquides qui ont des indices plus élevés, mais ils sont extrêmement toxiques ou extrêmement corrosifs. Hein, donc bon, évidemment, pour une paire de lunettes, ça va peut-être poser des problèmes. Hein, donc en gros, on s'arrête là. Nous, les liquides qu'on utilise aujourd'hui, ils sont tout à fait dans le peloton. On n'a pas besoin d'utiliser les têtes de peloton. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un brevet sur une micropompe ? Vous pourriez me poser la question, et vous feriez bien, parce que quand on regarde bien, des pompes microfluidiques, il y en a des centaines, voire des milliers, enfin, il y a des milliers ou des dizaines de milliers de chercheurs qui mettent au point des petits MEMS, là, c'est-à-dire des petits systèmes électromécaniques fabriqués dans le silicium, pour faire des pompes. Alors, c'est souvent pour des applications biomédicales, mettre un petit truc dans une artère pour un malade qui a besoin d'une libération de médicaments, des choses comme ça. Bon. Donc encore une fois, des dizaines de milliers. Mais le problème, c'est qu'aucune de ces pompes, pour l'instant, ne satisfait le cahier des charges de celle qu'il faut pour la paire de lunettes. Et une des raisons, c'est une raison assez simple, c'est que ce que cherchent à faire les gens dans le biomédical, c'est des pompes ultra miniaturisées, mais vraiment toutes petites. En gros, une chambre de 100 microns cubes. Quoi. Et du coup, pour que ça pousse un peu de liquide, pour qu'il y ait quand même un peu de flux de liquide, eh ben, il faut travailler à très haute fréquence. Et en gros, c'est des petites membranes comme ça, qui sont poussées, tirées, mais avec une fréquence très très élevée. Et du coup, la dissipation est énorme. Et le résultat, c'est que l'efficacité thermodynamique de ces pompes, elle est très 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 faible, de l'ordre de 10-4 à 10-5. Alors pour nous, c'est très handicapant, parce que ça veut dire que la consommation électrique va être très importante, et du coup, le poids de batterie, très important. Donc du coup, on a été obligé de redévelopper un concept de micropompe propriétaire, donc qu'on a breveté, et qui est moins miniaturisé que les pompes pour la biologie, mais par contre qui a une efficacité proche de 100%. Voilà, là je vais passer parce que c'est un peu tard. Voilà, alors je vais faire un tout petit retour sur Varioptique, donc on va changer d'entreprise, on revient à la première, parce que c'est quand même deux technologies un petit peu différentes. Alors à Varioptique, on utilisait ce qu'on appelle une technologie d'électromouillage, donc ça c'est cette technologie qui était vraiment issue de la recherche fondamentale, puisque les recherches en électromouillage, en tout cas sur des liquides aqueux, ça datait des années 90, on va dire 85, 90, 95. Hein. Il y avait eu des recherches sur l'électromouillage. Alors l'électromouillage, c'est ce que vous avez vu en haut, c'est-à-dire une goutte dont l'angle de contact varie en fonction du champ électrique. Alors il y avait eu pas mal d'essais il y a très longtemps sur des gouttes de mercure, mais enfin le mercure, c'est pas un liquide transparent, et puis c'est quand même toxique, donc des recherches qui pouvaient être utilisables dans un produit, c'est seulement il y a, disons, on va dire 20-30 ans, et du coup, la première entreprise, l'idée c'était de prendre ces travaux d'électromouillage et d'en faire une lentille, et ça a été assez long, hein, vous voyez que les premiers travaux 90-93, premier patin de 95, Et puis, premier produit, je saute directement ici, hein, on est à 2007. Hein, donc 2007, on a une ligne de production qui produit des produits, et ces produits sont fiables, hein, et on commence à les vendre. Et en fait, c'est un petit peu comme ce qu'a expliqué, je crois que c'est Jérôme, hein, Jérémy, ouais, ce matin. Entre le moment où on a eu le premier prototype et le moment où il était fiable et on pouvait le vendre comme un produit, il y a eu quand même 5 ans. Et ces 5 ans, il y avait pas loin de 70 personnes dans l'entreprise. Donc ça représente un coût absolument énorme à financer. Et ça, on l'a financé grâce à des fonds de capital risque. Hein, donc Sophie Nova, Iris Capital, Exchange et d'autres. Hein, il y en a d'autres, il y a eu un fonds japonais aussi. Et heureusement qu'on a été bien financé, sinon on ne serait jamais arrivé au bout, je pense. Ensuite, il y a eu une phase un peu plus chaotique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a échoué sur le premier marché. Le premier marché, c'était l'autofocus. En fait, il y a un système qui est arrivé avant nous, qui est le système que vous avez tous dans votre portable, normalement, hein, si vous regardez. Dans la caméra de votre portable, il y a ce qu'on appelle un petit système de voice coil, c'est-à-dire que la mise au point de votre caméra, elle est faite par un petit ressort et un petit électroaimant qui fait bouger la lentille. C'est la même technologie qu'il y a dans les pick-up, hein, dans les têtes de lecture optique. Pourquoi je dis ça? Oui, alors, et donc ça, on l'a loupé parce qu'en fait, eux, ils existaient, ils étaient déjà prêts sur le marché, et nous, le temps qu'on développe le produit, on est arrivé en retard. Bon, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va développer une fonction optique qui a une plus haute valeur que l'autofocus. C'est vrai que l'autofocus, c'est pas très facile à vendre. Oui, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez au lieu d'avoir 50% d'images nettes dans vos photos, vous en avez 70% ou 80%. Bon, c'est bien, mais c'est pas vital. Par contre, on a développé une autre technologie, c'est cette vidéo. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à la refaire partir. C'était la stabilisation d'image. Alors, on a mis plusieurs électrodes autour de la lentille, on l'a sophistiqué un petit peu, et on arrivait effectivement à faire de la stabilisation optique d'image. Et ça, c'est quand même un vrai problème avec les portables. Quand on a un portable, en général, on prend une photo, on a toujours un petit tremblement, parce que d'abord, on le tient qu'à une main, et même si on le tient à deux mains, j'entends qu'il rigole, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu la trémor, ce qu'on appelle la trémor, hein, qui est on a une petite vibration humaine, et ça fait des photos floues. Hein. Et donc, on a développé ça, une fonction stabilisation d'image, et franchement, ça marchait, mais super. Mais franchement, super. Et on a montré ça à tous les fabricants de téléphonie mobile. Et ils étaient tous emballés, mais il y avait un petit quelque chose qu'on ne comprenait pas quand même, et on avait l'impression qu'il tardait un petit peu. Le seul qui n'a pas tardé, c'est celui qui fabriquait le BlackBerry, c'est-à-dire RIM, un Canadien. Bon, super, on est parti, on a commencé à signer les contrats. Patatras, c'est juste au moment où l'iPhone est sorti. Il y a eu la crise de 2008, tout s'est écroulé. RIM existe toujours, mais c'est vrai que c'est plus ce que c'était à l'époque. À l'époque, c'était vraiment un des plus flamboyants. Hein. On était vachement contents de signer avec eux. Bon, ça s'est un peu écroulé. En parallèle, on a perdu notre fabricant, qui était un Japonais, qui avait construit une ligne de production. On a perdu tous nos autres clients. Enfin voilà, on s'est retrouvé en 2008 après la crise financière. Nous, on pensait avoir à peu près rien à voir avec la crise financière. Et en fait, si. Hein, et on a été, franchement, on était complètement démunis. Quoi. Alors, heureusement, on a réussi quand même à repartir parce que on avait quand même un petit marché qu'on avait gardé. Hein, alors, ça va un peu contre ce qu'on disait tout à l'heure. Heureusement qu'on l'avait gardé en parallèle. On avait adressé le marché des caméras digitales professionnelles. Alors, c'est typiquement... alors, c'est des noms que vous ne connaissez pas, parce que, justement, c'est des caméras professionnelles. C'est Cognex, Optoelectronics, enfin, des gens comme ça, au Japon, aux États-Unis, Datalogic en Europe. Et c'est des gens qui font des caméras. En gros, c'est la même caméra que votre portable, sauf qu'elle vaut 1 500 €, et elle est faite pour être mise sur des lignes de production. Par exemple, FedEx s'est équipé avec notre technologie, et ils ont doublé la vitesse de leur tapis roulant pour trier les tapis, parce que les caméras arrivaient à lire beaucoup plus rapidement les codes-barres. Donc, on avait ce petit marché, et du coup, on est reparti avec ce marché, sur une base un peu plus modeste. Aujourd'hui, Varioptique, c'est à peu près 30 personnes. Hein, donc, il y a eu d'autres péripéties. On a été racheté par le groupe Parrot. Et puis quelques années après, donc tout récemment, là, au début de l'année 2017, Varioptic a été de nouveau racheté par un groupe américain qui s'appelle Invenios. Et c'est un très bon rachat. C'est un groupe qui s'est allié avec une entreprise américaine installée en France, qui est une entreprise sérieuse. Donc c'est un rachat qui est solide, quoi, hein. C'est pas un rachat purement financier. Voilà. Et aujourd'hui, l'entreprise vit bien, hein. Donc ils viennent de signer là d'ailleurs une très très grosse commande, la plus grosse commande de toute leur histoire. Aujourd'hui, on est une technologie incontournable dans les caméras professionnelles. Et le nouveau racheteur, là, celui qui vient de racheter en 2016, là, 2017, pardon, il a envie justement aussi de redévelopper ça pour les applications portables parce que ça reste une utilisation intéressante. Voilà, ça c'est un petit peu la gamme de produits. Alors, ça, je montre cette photo, c'est la gamme de produits de Varioptic. Je reviens aux lunettes. En fait, ma première idée, c'était de développer la paire de lunettes avec cette technologie-là. Bon. La difficulté, c'est que vous voyez dans notre roadmap, ici, la plus grande lentille qu'on a réussi à fabriquer, c'était 8 mm de diamètre, hein, avec une carcasse quand même autour qui n'est pas transparente. On aurait pu la faire transparente, mais enfin bon, aujourd'hui, elle ne l'est pas. Et surtout, en fait, on a une limitation sur le diamètre de la lentille, et surtout, une limitation corrélée entre le diamètre et la gamme de température. En fait, il y a un effet physique qui, il y a deux liquides. Ici, en fait, c'est pareil, il y a deux liquides en fait qui ont la même densité. Pourquoi la même densité ? Parce qu'il faut pas, il faut supprimer les effets de gravité. Donc, on le fait en mettant deux liquides de la même densité. Mais le problème, c'est que ajuster deux liquides pour qu'ils aient la même densité, c'est très facile de le faire à une température, mais de le faire sur une gamme de température élevée, c'est très difficile. Et c'est ça qui barre en fait la course au diamètre, parce que la précision à laquelle vous devez accorder la densité des liquides diminue comme le cube du diamètre optique. Et donc, en gros, 8-10 mm, 15 mm, ça va être le max. Ici, on a besoin de 20-30 mm, hein, des diamètres comme ça. Donc c'est une raison vraiment de physique fondamentale qui m'a fait mettre à plat la technologie et me dire que voilà, il fallait une nouvelle technologie. Alors là, je vais passer parce que c'est un petit peu. Ah, oula, excusez-moi, là, je sais pas pourquoi, j'ai pris une slide qui venait par petits bouts. On va y aller vite. Voilà. Voilà. Alors, la propriété intellectuelle, effectivement, tous les orateurs avant moi ont insisté là-dessus, et effectivement, il faut insister là-dessus. Dans ma précédente entreprise à Varioptic, on a eu une grosse bisbille avec Philips. Hein, Philips, un jour, a envahi la planète avec des communiqués de presse en disant qu'ils avaient inventé la lentille liquide, qui était très proche de nos brevets. Et heureusement qu'on avait des brevets qui se sont avérés très solides. Et du coup, on a pu faire valoir nos droits, mais c'est vraiment indispensable. Quand on a des gros poissons autour, c'est sûr qu'il ne faut pas s'imaginer que le secret va vous protéger. Alors, nous, on a essayé, dans Varioptic, et on va faire un peu la même chose dans la Clarée, on essaye quand même de combiner différentes protections. Le brevet, ça reste incontournable. Et puis, c'est un peu comme Coca-Cola, on cache la formule. Hein, on cache tout ce qui est un peu savoir-faire ou des choses où on est moins à l'aise avec les brevets. À ce moment-là, on le cache. Ça complète pas mal. Hein. Alors, ceci dit, bon, faut pas rêver. Hein, je pense que l'histoire de Coca-Cola et de la formule secrète, c'est à mon avis probablement une légende. C'est-à-dire que je pense que Pepsi est tout à fait au courant de la formule de Coca, et bon, simplement, voilà, ça fait bien, ça fait de l'histoire, ça fait mousser un peu. Donc je pense que Coca-Cola est attaché à cette histoire, mais bon, j'y crois pas trop. Bref, n'importe quelle sauce, vous prenez 15 bons chimistes, ça tiendra pas longtemps avant qu'ils aient compris ce qu'il y avait dedans. Bref. Alors, quelqu'un l'a dit ce matin aussi, et c'est très important, en même temps que déposer des brevets, on est toujours à vérifier notre liberté d'exploitation. Hein, brevet, c'est notre protection, et la liberté d'exploitation, c'est vérifier qu'on n'est pas en train d'enfreindre les brevets des autres. Hein, parce que ça, pour une entreprise comme nous, ça peut être tueur. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de citer l'entreprise ici, mais moi, je connais bien une entreprise qui a eu un problème aux États-Unis, un problème d'attaque juridique sur des problèmes de brevets. Ils étaient totalement de bonne foi, ils n'enfreignaient aucun brevet. Mais n'empêche que le simple fait d'être attaqué de mauvaise foi par une entreprise, ça leur a coûté des millions de dollars. Donc, c'est quelque chose où il faut faire très attention. Donc, voilà. Donc, il faut y passer presque autant de temps a fabriqué un portefeuille de brevets qui a aussi vérifié l'état de l'art autour. Et puis en plus, ça donne des idées. Hein. Quand on va voir les autres, bon, on voit un peu ce qui se fait et c'est toujours très intéressant. Voilà, ça c'était un petit peu la fin de mon exposé. Donc, je voudrais juste terminer par une petite remarque, encore une fois, pour revenir sur disons, mon expérience dans les deux créations d'entreprises. Il y en a une qui était vraiment, j'ai trouvé une technologie, à quoi ça peut bien servir. Au début de l'entreprise, au début de Varioptique, honnêtement, on avait 5 marchés possibles, les jouets, les caméras de je ne sais plus quoi, les portables, etc. Et c'est après, en travaillant, qu'on a identifié comme les caméras miniatures comme étant vraiment le point le plus intéressant à fouiller. Donc on a pris une technologie de recherche pour l'amener dans l'innovation. La Claret, c'est vraiment l'inverse. On est parti du besoin, et le besoin, c'était on ne veut pas de problème d'esthétique. On veut absolument rentrer dans l'esthétique d'une paire de lunettes. Et donc, la technologie, elle doit s'y adapter. Donc, il ne faut pas que ce soit plus épais, il ne faut pas que ce soit moche, il ne faut pas que ce soit manuel, il faut que ce soit automatique. Si vous avez quelque chose qui est manuel, vous voyez en face de vous, vous avez quelqu'un qui faisait ça, c'est comme si vous aviez écrit « je suis en train de vieillir ». Donc, les gens n'aiment pas ça. Quoi. Donc, c'est classique, c'est bête à dire, mais il faut quand même le dire. Donc la deuxième, vraiment, c'est notre volonté, c'est... On est un peu moins ambitieux, point de vue développement technologique faramineux, mais il y a quand même du taf, hein, puis il y a des jolies choses qui sont à faire. Mais par contre, on veut vraiment se mettre au service du marché et de l'application. Et voilà, moi j'y crois à fond, donc je vous remercie.